Vous écoutez Aube, une émission présentant des initiatives qui cherchent à réaliser une autre vision du monde. Si vous vous sentez inspiré par notre émission, nous vous invitons à faire entendre votre voix. Chaque épisode est le fruit des collaborateurs du moment. Aube, c'est aussi une revue et un blog avec plus de 400 entrées sur tous les sujets. Toutes nos émissions sont disponibles en balado et chaque capsule peut être téléchargée via laplumedefeu.com. Aube, épisode 49. La liberté des uns commence en théorie où celle des autres se termine. La liberté de voyager par-delà les frontières pour certains, d'aimer un être du même sexe pour d'autres, ou de simplement, par sa naissance, d'avoir les moyens de ses ambitions. Dans ce 49e épisode, nous nous sommes donc intéressés au concept de liberté. Au sommaire, Aube en tournée en France cet été. La fondation Combattre l'homophobie. La pratique de la danse médecine. Entrevue avec la compagnie Compan Électrique. André Fauteu nous parle d'électro-hypersensibilité. Et la finale du radio-théâtre de l'apostrophe de Monsieur Tubercille. Comme chaque semaine, Aube te propose de te rassembler autour de valeurs humaines, écologiques et collectives, de prendre action simplement par une prise de conscience. Le mot-clé? Libre. Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre, sang, papier ou cendre, j'écris ton nom. Sur les images dorées, sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois, j'écris ton nom. Sur la jungle et le désert, sur les nids, sur les genêts, sur l'écho de mon enfance, j'écris ton nom. Sur les merveilles des nuits, sur le pain blanc des journées, sur les saisons fiancées, j'écris ton nom. Sur tous mes chiffons d'azur, sur les temps soleil moisi, sur le lac lune vivante, j'écris ton nom. Sur les champs, sur l'horizon, sur les ailes des oiseaux et sur le moulin des ombres, j'écris ton nom. Sur chaque bouffée d'aurore, sur la mer, sur les bateaux, sur la montagne démente, j'écris ton nom. Sur la mousse des nuages, sur les sueurs de l'orage, sur la pluie épaisse et fade, j'écris ton nom. Sur les formes scintillantes, sur les cloches des couleurs, sur la vérité physique, j'écris ton nom. Sur les sentiers éveillés, sur les routes déployées, sur les places qui débordent, j'écris ton nom. Sur la lampe qui s'allume, sur la lampe qui s'éteint, sur mes maisons réunies, j'écris ton nom. Sur le fruit coupé en deux, du miroir et de ma chambre, sur mon lit coquille vide, j'écris ton nom. Sur mon chien gourmand et tendre, sur ses oreilles dressées, sur sa patte maladroite, j'écris ton nom. Sur le tremplin de ma porte, sur les objets familiers, sur le flot du feu béni, j'écris ton nom. Sur toute chair accordée, sur le front de mes amis, sur chaque main qui se tend, j'écris ton nom. Sur la vitre des surprises, sur les lèvres attentives, bien au-dessus du silence, j'écris ton nom. Sur mes refuges détruits, sur mes phares écroulés, sur les murs de mon ennui, j'écris ton nom. Sur l'absence sans désir, sur la solitude nue, sur les marches de la mort, j'écris ton nom. Sur la santé revenue, sur le risque disparu, sur l'espoir sans souvenir, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer Liberté. Un texte de Paul Éluard, tiré de Poésie et Vérité, écrit en 1942. Narration et adaptation de Philippe Laramé.
C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Tatatin, moi la mer, elle m'a pris, je me souviens, un mordi. J'ai troqué mes Santiago et mon cuir un peu zone contre une paire de Dockside et un vieux ciré jaune. J'ai déserté les crasses qui me disaient « Sois prudent, la mer c'est dégueulasse, les poissons baissent dedans. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons. »
voyage, une forme différente pour exprimer sa nature.
Développer ce que nous sommes à travers l'expérience, à travers les autres.
Se présenter nous face à l'inconnu pour nous redécouvrir.
Comprendre, étendre notre esprit et découvrir les enjeux du monde au-delà de nos régions.
Le voyage est un moyen d'être autrement. Il est une discipline et un plaisir.
Personne n'a jamais été pris d'une puissante envie de gravir un sommet au-delà de la couverture des nuages.
De parler tellement de langues que Babylone serait une piètre image de la connaissance.
Être de toutes les cultures, de tous les pays.
Apprendre sans s'arrêter.
Dormir dans la savane.
Marcher les pieds en entier dans la boue d'une rizière à perte de vue.
Distinguer les reflets de la terre dans les yeux d'inconnus.
Ou tout simplement, vivre en mouvement.
Has anybody seen Sam Lowry?
Bon, les auditeurs qui écoutent les épisodes en balado, entre l'épisode 49 et 50, peu de temps sépare votre écoute. Mais pour vous qui nous suivez semaine après semaine sur la bande FM, un certain temps séparera la réalisation de l'épisode 49 et 50. Fin de cycle de production de la première saison de Aube qui se conclut aujourd'hui et début d'un grand périple en France pour moi qui s'envolera dans quelques dodos à la découverte des alternatives et des solutions de l'ancien pays. 31 jours de périple en vélo et en train aux quatre coins de la France avec mon matériel audio pour ramener dans mes bagages des entrevues, des témoignages, des tranches de vie et des anecdotes. Je lance donc cette bouteille à la mer à vous, auditrices et auditeurs. Si vous connaissez des initiatives porteuses d'espoir, d'un héros anonyme du quotidien, un écolieu unique, un projet porteur pour sa communauté, un bon voisinage engagé, écologique, ou encore une personne qui fait une différence, en passant par les écolieux, les projets en transition, les écovillages, et j'en passe. Bref, merci de m'écrire par courriel à coordination@laplumedefeu.com. Bel été! Lors de l'Expo Manger Santé, Marie-Claude Tardy et moi-même avons pérégriné entre les kiosques à la recherche de solutions évolutives et novatrices.
Compliqué, on a juste à penser à Vespa. On est le compétiteur principal de Vespa, mais on fait 100% électrique. Donc, on est que dans ça. C'est associé à l'allemand, mais on est manufacturier, nous autres Canadiens, donc on fait de l'assemblage ici. On importe les produits d'Allemagne, puis on fait l'assemblage au Québec. Donc, plus de 60% d'assemblage est fait ici. Mon nom, c'est Simon Deschaine. Je suis partenaire associé pour l'entreprise Kumpan Electric. La trottinette, c'est un modèle qui va à 25 km/h, qui a 40 km d'autonomie, qui se plie complètement aussi. Donc, c'est pratique pour la porter en bon chinois. En anglais, on appelle ça le Last Mile Transportation Solution. Donc, on vient de lancer ça cette année. C'est tout nouveau. On espère, on a des grands espoirs. Il y a déjà beaucoup d'unités de vendues en Europe. Donc, ici, on décolle avec ça. Donc, c'est un modèle très, très agréable à conduire en ville, entre autres, des distances qui sont moins de 20 km, même si on a 40 km d'autonomie. On remarque qu'entre 10 et 20 km, c'est vraiment un modèle de transport idéal. Concrètement, c'est 40 km d'autonomie avec une recharge, faite pour un adulte qui pèse entre 70 et 75 kg. C'est toujours la mesure. Pour les scooters, on va chercher plus d'autonomie. C'est sûr que ça va jusqu'à 150 km d'autonomie. On parle de technologie aussi où on a des batteries amovibles. Vous me voyez juste là. Très, très pratique pour ceux qui vont travailler avec, qui travaillent dans des tours à bureau. Donc, on n'a pas toujours une prise au 110 extérieure. Donc, on monte, on amène la batterie qui pèse 20 livres avec nous. On peut la charger dans n'importe quelle prise électrique au bureau. Si notre patron nous dit que c'est trop cher, on peut lui donner 25 sous parce que c'est ce que ça coûte à recharger complètement. Donc, chaque batterie comme ça vous donne 50 km d'autonomie, puis on peut en mettre jusqu'à 3 dans chaque scooter. La vitesse maximum est de 66 km/h pour le 1 place, 68 pour le 2 place. C'est les seuls scooters électriques au Canada certifiés par Transport Canada. Permis de classe 5, permis pour conduire une auto. Mais ça ne prend pas de permis de moto comme tel. On peut aussi conduire à partir de l'âge de 14 ans avec un permis 6D, qui est un scooter, un permis de scooter. Vous avez le modèle une place dans les scooters qui est 4 400 $, le modèle deux places qui est 4 800 $. On fait le financement aussi. Mais on les loue, effectivement. On commence la location pour notre succursale du Vieux-Montréal seulement cet été. C'est pour ça qu'il est pliable, c'est qu'on peut le porter en bordelière. C'est sûr qu'on ne fait pas une marche en forêt de 50 km avec ça sur le dos. C'est encombrant. Mais c'est fait pour pouvoir le rentrer au bureau. T'sais. Quand je vais faire mon épluche-vais, des fois au supermarché avec, je le mets dans le panier. Je le plie et je le mets dans le panier. Sur ça, oui, vous avez le pourcentage ici. Vous voyez les chiffres qui sont là. Ouais. Donc, vous voyez. Puis dans la... on a une application qui s'en vient aussi. Donc, nos batteries sont toutes 2.0 avec une puce intégrée. Puis à ce moment-là, ça va être connecté sur le GPS du cellulaire là, pour pouvoir donner exactement la distance qu'on peut faire encore, selon notre habitude de conduite, notre poids et tout ça. On a un vélo électrique qui va sortir en décembre prochain. Très rétro aussi, donc avec les espèces de poignées en bas ou quoi que ce soit. Là. On travaille sur une espèce de système anti-vol aussi, parce que ça devient un problème. Parce qu'un vélo électrique de qualité, c'est 3 000 $. Donc, si on laisse ça dans la rue.
Pour plus d'informations, visitez kumpanelectrique.com. Pour Aube, c'était un reportage de Philippe Laramé et de Marie-Claude Tardy.
Dans ces deux dernières années, je me suis promenée dans différents pays, le Mexique, l'Inde, puis la Californie. Dans ces endroits, j'ai rencontré plusieurs vieilles connaissances et je me suis fait des nouvelles amies végétales. De voir ces plantes pousser dans leur milieu naturel m'a inspirée à mieux les connaître et les utiliser pour moi-même et mes proches. Laissez-moi vous en présenter quelques-unes. Au Mexique, les bougainvilliers, les lamiacées du sud et les hibiscus honorent les chemins de leur beauté. Les poules qui courent de tous les bords et les couchers de soleil sur la Mermejita me font sourire. Plusieurs vieilles connaissances comme la menthe, la fougère à l'aigle, l'aloès et même un plant de tomate indigène caché dans un détour de Mazunte me rappellent leur existence. Hibiscus, cette jolie dame originaire d'Afrique, est sans contredit une des plantes les plus bues au Mexique. On en fait un breuvage froid ou chaud avec ses fleurs infusées qu'on appelle agua de Jamaïca. Connaissant son goût, sa vitamine C et la belle couleur rouge qu'elle donne aux tisanes, quelle ne fut pas aussi ma surprise d'apprendre qu'elle était émolliente. C'est une malvacée, comme la mauve et la guimauve. Donc, très intéressante en externe pour blessures ou brûlures en cataplasme et en interne pour les systèmes respiratoires et digestifs irrités. Antispasmodique, anti-inflammatoire, relaxante musculaire, particulièrement du système respiratoire, elle me semble parfaite pour les bronchites, quinte de toux et maux de gorge. Mesdames, ceci est pour vous. Hibiscus agit aussi comme tonique utérin et œstrogénique, ce qui en fait un allié particulièrement dans la deuxième moitié du cycle. On l'a dit aussi hypotensive, diurétique et sudorifique. Finalement, elle est antioxydante grâce aux anthocyanes qui lui donnent sa couleur rouge. Ah, la vie nous réserve toujours des surprises. Cher Damian, qui me fascine depuis bien longtemps, je l'ai fumée comme tabac avec joie pendant des années et j'ai préparé avec elle des potions aphrodisiaques pour mes beaux miroirs masculins. Les Mayas l'utilisaient d'ailleurs pour cette raison et les Autochtones du Brésil l'utilisent depuis toujours comme tonique. En fait, on la dit même psychoactive. Elle est bien mystérieuse. Ce qui est certain, c'est qu'à fort dosage, ces alcaloïdes peuvent avoir des effets surprenants, mais en faisant travailler fort notre petit foie si précieux. Mentionnons ici qu'elle peut devenir purgative. Chers messieurs, elle active la circulation, amène un afflux aux organes génitaux effacés, est relaxante et bien sûr tonique. Elle s'avère donc très utile lors de dysfonctions masculines. Diurétique, elle est aussi antiseptique. On l'utilisera donc en cas d'infection urinaire légère. Son goût est particulier. Apprivoisez-le lentement en infusion. Me voilà enfin dans le giron de la Mama India avec tous ses paradoxes. L'abondance et la misère, les couleurs vives et la grisaille, les paysages incroyables et la pollution qui les habite, la puissance mystique et le kitsch quétaine, les odeurs, la musique, les rencontres, le travail intérieur. J'ai aperçu du chanvre poussé sur le bord des routes en allant vers Dharamsala, accompagné de chardon et de molène. J'ai même vu et goûté de l'ortie et du mouron des oiseaux dans les Himalayas. Mes proches amis ne me quittent jamais. Ashwagandha, ce nom aux consonances étranges veut dire en hindi « odeur de cheval ». Une plante pour les étalons. Elle contient un constituant proche des hormones stéroïdiennes humaines. Toute la plante est utilisée en Ayurveda depuis toujours, particulièrement par les hommes et les personnes âgées pour rester jeunes et en bonne santé. La racine de la Witania est tonique et adaptogène. Elle aide à résister aux infections en modulant le système immunitaire et calme l'organisme en cas de stress et de surmenage. On l'utilise actuellement en traitement expérimental contre le VIH à cause de son potentiel anticancérigène déjà testé sur des souris atteintes de tumeurs cancéreuses. Elle accroît les capacités mentales et amène une clarté d'esprit. À utiliser en décoction ou en poudre mélangée au smoothie. Shatavari, ce nom aux consonances étranges veut dire en hindi « femme aux mille maris », une plante pour les lionnes. Elle lubrifie les ardeurs, nous invite à la sensualité et encourage la fertilité. En fait, elle amène l'eau à venir habiter tous les endroits secs de notre corps. Elle est œstrogénique, donc utile en prélune et pour tout débalancement hormonal féminin. Et même galactagogue, c'est-à-dire qu'elle augmente la production de lait maternel. Tonique féminin, elle s'avère aussi une alliée lors de la ménopause. Comme son alter ego masculin, la swagandha, elle possède des propriétés adaptogènes et immunomodulatrices. Elle nourrit les os et calme les excès de chaleur. En Ayurveda, on mélange une cuillerée à thé de sa poudre à du lait tiède et un peu d'eau de rose. C'est délicieux et efficace. Terre de feu, la Californie porte aussi son lot de paradoxes. Créative, extravagante, avant-gardiste, abondante, elle a nourri mon inspiration à plusieurs niveaux. Elle m'a aussi projetée dans les dédales de mon labyrinthe émotionnel, tout en ouvrant les paramètres de mon chemin spirituel. J'ai aperçu des molènes, de l'éphédra et beaucoup de carottes sauvages. L'herboristerie y est très dynamique et les herboristes inspirantes et éclatées.
C'était un texte de Sarah Maria Leblanc, extrait de la chronique du petit ami, tiré de Aube, le recueil de solutions, dont vous pouvez lire la chronique complète sur laplumedefeu.com. Adaptation et narration de Marie-Claude Journeau.
boulevard Fortin, dans un 4,5 avec trois autres copains. C'est laid, c'est petit, y a ben du bruit. C'est plate à mort, jour comme la nuit. Je suis dans la capitale du bonheur, ça m'empêche pas d'avoir peur. Des cons, des bœufs, des développeurs. Il serait où ce monde meilleur? À maison, c'était pas mieux. Père souvent chaud, la mère ben gelée. Puis quatre braillards pas mal nerveux, comme pas évident pour étudier. Même si un prof m'a trouvé du talent en art graphique, puis même en chant, trop d'autres m'ont dit que j'étais nul, enfin que je rageais seul dans ma bulle. J'ai décroché pour une vraie job, pour du cash safe dans une grosse shop. Mais ben vite tanné de me faire gazer par les kits de plastique identiques à démouler. Je sais pas maintenant comment je vais continuer, le BS c'est juste assez pour pas crever. Puis pas de cash, pas de filles, pas de fun. Heureusement qu'il me reste 2-3 bons chums. Ensemble, on va partir un bend de garage. Ça va clencher avec du stock qui déménage. On va gagner une médaille au festival. On va les épater, ça va faire mal. Je le sais bien que je suis pas ordinaire, cassé, rebelle, plein de clous, boutons. N'empêche que j'ai plein de trucs à dire. Moi aussi, j'ai bien le droit de vivre. Dans ce pays qui dit une démocratie où chaque coureur a soi-disant sa chance de réussir. Mais on peut même plus louffer en paix dans le boisé. Les pauvres sont en majorité, on commence à être tannés. Les ouvriers, les gueux, les gagnent petits, les ignorent, ceux qui nourrissent la machine continuellement. Ils pensent pas, ils parlent pas ou juste entre eux. Trop fatigués de bosser pour leur bile, ils restent silencieux. Hey lady! Moi-même, comme bâtard issu de cette gang, quitte à être éjecté de la game, je veux plus la jouer, je veux créer, je veux crier. Moi pis ma gang de chums allumés. Je le sais maintenant que j'ai du talent, plein la cervelle, le cœur pis du cran. Ma vous le montrer, même vous payerez cher au palace pour m'entendre chanter.
Texte et narration, Danny Schneider.
Bradonnez-la par les bois, bradonnez-la par les bois, mon gars, bradonnez-la par les bois. Quand la vie est comme un mal de tête, quand la vie elle a l'air belle, quand ils sont très loin les jours de fête, tu voudrais que tout s'arrête. Quand la vie est comme un mal de dents, que t'es pogné par en dame, quand tu sais plus trop ce qui t'attend, mais que vraiment tu perds ton temps. Bradonnez-la par les bois, bradonnez-la par les bois, bradonnez-la par les bois, mon gars, bradonnez-la par les bois. T'es crispé, tordu, tanné, et tordu, frustré, perdu, que t'en peux plus, la tête vidée, le cœur fendu, tu cherches une planche de salut. T'as des coins, c'est mal pris, rince, c'est détruit tout, t'as angoissé, tout seul, tout gris, t'en as assez, ça suffit, rappelle-toi ce que t'as appris. Bradonnez-la par les bois, bradonnez-la par les bois, bradonnez-la par les bois, mon gars, bradonnez-la par les bois, bradonnez-la, pas le mort aux dents, bradonnez-la, pendant qu'il est temps. Tu sais que tous ceux qui ont laissé tomber, ceux qui ont tout abandonné, ceux qu'on voit dans la rue égarés, c'est le conseil qu'ils n'ont pas écouté. Alors avant de te laisser aller, faire quelque chose que tu vas regretter, tu devrais prendre une pause, respirer, ouvrir tes bras et puis chanter. Hey, hey, hey. Pardonnez-la par les bois, pardonnez-la par les bois, pardonnez-la par les bois, mon gars, pardonnez-la par les bois, pardonnez-la par les bois, pardonnez-la par les bois. Pardonnez-la par les bois, mon gars, pardonnez-la par les bois. Pardonnez-la par les bois, pardonnez-la par les bois. Pardonnez-la par les bois, mon gars, pardonnez-la par les bois.
Mon nom est Philippe Laramé, journaliste pour Hope, qui vous parle en direct du... de votre envoyé spécial, Philippe Laramé, en direct de là. Ici Radio Aube. Bonjour, ici. J'aurais bien fini par trouver un spot, pas de réseau, pas de Wi-Fi. Vous êtes toujours à l'écoute de Aube, une émission présentant des initiatives qui cherchent à réaliser une autre vision du monde. Plutôt en début d'émission, nous avons entendu un extrait de la chronique du Titami spécial Voyage, une entrevue avec la compagnie Kumpan Electric, Rap par Rap, un texte signé Annie Schneider, le poème Liberté de Paul Éluard, et la musique de Renaud avec Dès que le vent soufflera, les Cowboys fringants avec Le Pousseux, et Dominique Michel et Denise Filiatro avec Il y a du soleil. Si vous avez manqué la première partie, vous pouvez télécharger nos émissions en balado via laplumedefeu.com. À venir dans la deuxième partie, la pratique de la danse médecine. Une entrevue avec les fondateurs de la fondation Combattre l'homophobie. André Fauteux, éditeur du magazine La Maison du 21e siècle, nous parle d'électro-hypersensibilité. Et la finale du radiothéâtre de Monsieur Tubercil. Sans oublier la musique de Gabriel Bouchard avec Prends ton élan par les bois et Lisa Leblanc avec Motel.
Ces dernières années, j'ai vu ma sœur se métamorphoser. Elle est passée par des moments difficiles, très difficiles. Elle a craqué parfois. Mais je l'ai toujours vue essayer d'avancer, de changer, de guérir des blessures. J'avoue que j'ai quelquefois eu des doutes quant aux méthodes employées pour y arriver. Comme par exemple son stage d'ayahuasca à Takiwasi au Pérou. Mais je dois reconnaître qu'aujourd'hui, elle est une femme magnifique, qui par sa seule présence aide les gens à s'épanouir. Elle offre régulièrement des ateliers de danse médecine à Nantes. L'objectif de ces ateliers, selon un article de Psychologie Magazine, est de renouer avec un corps dansant, débordant de vitalité et de créativité. Dans ce lâcher-prise, chacun réalise que ce n'est pas le corps qui est fatigué, mais le mental. Le but est de révéler une vraie vitalité et la joie que l'on a en soi. Cette pratique est encore peu connue en France, mais se développe rapidement. Lors de mon dernier séjour, j'ai enfin pu participer à un de ces ateliers. À la suite de cette journée, j'ai voulu qu'elle me raconte son chemin à travers la danse et vers la guérison.
Quand j'ai fait mon stage à Takiwasi, j'ai eu des visions, ou des rêves en tout cas, qui me disaient « il faut que tu danses, il faut que tu danses, il faut que tu danses ». Et quand je suis rentrée, en fait, je me suis rappelée qu'il y avait eu un Psychologie Magazine qui était sorti spécial danse. Donc j'ai recherché dans mes vieux magazines et en feuilletant, je vois ce truc danse médecine. Donc je suis allée sur le site de Mouvement Médecine et donc sur la page d'accueil, il y avait une petite vidéo de gens qui dansent et puis de Yakov et Susanna qui expliquaient leur pratique. Et en 30 secondes, j'étais en larmes, quoi. Ça a touché mon cœur et je me suis dit, en fait, j'ai attendu ça toute ma vie, quoi. Où ils expliquaient le mouvement libre et intuitif, le fait de retrouver à travers le mouvement sa connexion avec son cœur, avec ses émotions et avec la spiritualité. Donc je suis allée voir sur le site et il y avait un stage en novembre avec Susanna qui s'appelait Love Stories. Et à l'époque, mon couple était déliquescence totale. Donc je me suis dit, bah, je vais m'inscrire et puis je vais y aller pour sauver mon couple. Tu parles. Et donc je me suis inscrite en avril. Et puis entre-temps, le premier week-end du 1er novembre, j'ai décidé de sortir de cette relation. Donc j'ai quitté mon mari. Et donc je me suis retrouvée le 15 novembre à Paris avec une centaine de danseurs pour faire le stage Love Stories. Et en fait, pendant 2 jours, tu danses et tu réfléchis à c'est quoi l'histoire que je me raconte sur l'amour ? C'est quoi les histoires que je me raconte sur ce que c'est que d'être amoureuse, ce que c'est que d'être en couple ? Comment j'accueille l'amour dans ma vie ? Autant te dire que j'ai passé 48 heures par terre à me rouler dans mes larmes. Et je crois que c'était la première fois dans ma vie où on m'a laissé pleurer pendant 2 jours. Et j'ai pu pleurer, hurler, tout ce que j'avais besoin, en sentant qu'il y avait un cadre bienveillant autour de moi, que s'il y avait quoi que ce soit, il y aurait quelqu'un pour moi, mais que personne soit venu me demander mais qu'est-ce qui se passe, ou bien me dire ça va aller, t'inquiète pas. Voilà, j'avais juste le droit. Ma vie était en train de s'effondrer, quoi. J'étais au bord du précipice et j'avais le droit d'être dans ce désespoir, quoi. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps et en faisant ça, j'ai recontacté aussi ma joie puis ma force, quoi. C'est moi-même qui me suis dit c'est horrible, c'est terrible, c'est super douloureux et ça va aller. D'un seul coup, je me suis dit ça y est, j'ai trouvé ma famille. Je suis pas la seule tarée à avoir envie de danser, de me rouler par terre. Je suis pas la seule à prendre des inconnus dans les bras. Et juste que c'était juste possible d'accueillir qui j'étais, comme j'étais, et que y avait pas, j'avais pas à faire semblant, en fait. Avant, j'ai fait beaucoup de thérapie dans la parole, et c'est génial. Ça aide beaucoup. Mais je me rends compte que tant que je restais dans la parole, j'allais en camp de rééducation. J'attendais d'être guérie parce que je voulais qu'on me fixe. Je voulais qu'on me répare. Je voulais arrêter d'être malade. Je voulais arrêter d'avoir un problème. Et donc, quelque part, j'allais en camp de rééducation, quoi. J'allais me rééduquer pour être quelqu'un de normal. Et en fait, avec la danse, j'ai pu être ce qui j'étais. Puis me rendre compte que j'étais parfaite. Et que tout ce qui était là pouvait se danser. Et que tout ce que j'étais et tout ce que je ressentais et tout ce que j'avais traversé pouvait être mis en mouvement et devenir de l'énergie au service de ma vie. À chaque fois que j'ai lâché des grosses colères ou des immenses chagrins, j'ai trouvé la grâce, j'ai trouvé la joie, j'ai trouvé la puissance. Surtout, ça m'a permis de me reconnaître telle que je suis. Et de me reconnecter avec ce que je suis, avec tout le bordel qui est à l'intérieur de moi, avec tout ce que j'arrive pas à faire, et en même temps avec tout ce que je fais. Et ça m'a appris à m'aimer et à me trouver belle telle que j'étais. Et à m'accepter, m'accueillir même. Parce que s'accepter, c'est même, il y a un effort, quoi. De s'accueillir telle que je suis, et puis de reconnaître que ça fait partie de la condition humaine de souffrir et de jouir. D'y arriver et de se planter, de faire du mal et de faire du bien, et que la seule chose que j'ai à offrir, c'est juste d'être moi, en fait.
C'était une entrevue de Justine Restello.
L'homosexualité est un tabou encore présent dans nos sociétés et l'incompréhension de cette réalité pousse certains individus à commettre des actes violents, voire criminels. Cette semaine, à l'émission Home, nous avons décidé de vous parler de la liberté d'aimer. Pour nous en parler, Guy Sivigny, auteur, acteur, comédien et conférencier, son acolyte Nicolas Laurieri, tous deux fondateurs de la Fondation Victoire sur l'homophobie, ainsi que Danielle Bédard, galériste à la Galerie et cofondatrice de Pop-Up Art Montréal, sont venus dans nos studios pour nous parler du lancement de la Fondation qui a eu lieu vendredi le 13 mai à la Galerie.
Au tout début, Nicolas a eu l'idée de faire un événement. Il a rencontré Danielle Et par la suite, plus ils se rencontraient et davantage ils avaient l'idée que ça aille un peu plus loin, toute cette organisation pour souligner la semaine et la journée internationale contre l'homophobie. Et c'est alors qu'ils ont eu le flash génial que de créer la fondation Victoire sur l'homophobie, qui était déjà le titre du projet que Nicolas avait lancé sur Internet avec Alexandre Gagnon. Alors, c'est là, le vendredi soir, après quelques mois, nous avons officiellement lancé la Fondation Victoire sur l'homophobie, qui se retrouve sur maintenant avec un site qui va évoluer selon la Fondation, les services qu'ils vont offrir, etc.
Puis c'est une cause que je tiens beaucoup, beaucoup, beaucoup à cœur. Alors, j'ai décidé de l'aider du début jusqu'à la fin. Puis après ça, j'ai rencontré Guy Sévigny aussi, qui est aussi un des cofondateurs aussi de Victoire sur l'homophobie. Puis c'est comme, je trouvais qu'on avait beaucoup de besoins encore et encore et encore pendant longtemps de pas prouver ou quoi que ce soit, mais d'être capable d'être qui qu'on est, puis de pas personne s'écœurer. C'est comme, il y a rien de mal avec l'amour, c'est pas la guerre. Puis c'est ça que moi, c'est une cause que je tiens à cœur. Fait que c'est pour ça que j'ai dit oui, puis je vais t'aider du début jusqu'à la fin, puis je veux faire partie de l'organisation, puis de la fondation, tout ça. Fait que...
Alors là, j'ai appelé Mark Raper, et lui, il m'a suggéré Daniel. Et c'était le coup de foudre du début. C'était vraiment génial, c'est magnifique. Elle m'a accueilli avec ses grands bras.
GLBT, on inclut tout le monde parce qu'il y a un vide à ce niveau-là. Et je m'en suis rendu compte lorsque j'étais agressé. Lorsque je suis sorti de l'hospitalisation, j'aurais voulu qu'on me guide. Et bon, s'il y a quelques associations qui pouvaient me guider, mais ce sont des associations qui sont surtout présentes pour les femmes, et c'est correct, parce que nous le savons que la majorité des personnes agressées dans nos sociétés sont les femmes. Mais toutefois, il n'y avait pas d'association pour recevoir les GLBT, et là, il y a eu le vide. Et c'est pourquoi que j'ai pris quand même... 2 ans avant d'avouer que c'était une agression homophobe, puisque j'étais incapable de l'exprimer devant ces groupes, devant ces professionnels de la santé qui traitaient mon agression comme un peu toutes les autres, c'est correct. Sauf que, comme moi, je suis homosexuel, je ne pouvais pas parler ouvertement, justement, de la problématique que je vivais et qui j'étais aussi. Alors, comme je donne souvent l'exemple, les CAVAC reçoivent les femmes, elles sont reçues par des femmes, c'est extraordinaire, puisque les femmes peuvent mieux encadrer ces femmes qui sont maltraitées. Alors, on va faire la même chose avec la Fondation Victoire sur l'homophobie, c'est-à-dire qu'on va pouvoir recevoir les GLBT. Ils n'auront pas à attendre 2 ans avant d'exprimer leurs difficultés. Et en même temps, nous allons pouvoir les guider. Et partout où on pourra leur avoir des gains, ils pourront les toucher rapidement, parce que moi, j'ai quand même attendu 4 mois avant d'avoir un premier paiement de l'IVAC. J'avais droit à des trucs dont je ne savais pas, j'ai appris après. Alors, c'est ça, c'est de guider vraiment ces gens, et il va y avoir un psychologue qui est lié avec notre fondation pour pouvoir recevoir la personne aussi. Alors, c'est vraiment, c'est de prendre, d'encadrer la personne le temps que sa thérapie prenne vraiment son envol avec l'IVAC et tout le reste. Mais avant ça, il y a beaucoup, beaucoup de choses à voir, à comprendre, ne serait-ce que de remplir les formulaires de l'IVAC, CAVAC et autres. C'est très demandant, et nous allons pouvoir s'asseoir avec ces gens pour pouvoir bien les recevoir. Et je sais par mon expérience que je vais pouvoir mieux les comprendre, puisque je suis passé par là, et je vais pouvoir vraiment les guider à travers toutes les expériences que j'ai vécues, les groupes qui existent et autres, pour pouvoir vraiment, vraiment que la victime ne se sente pas seule. Parce que c'est la première chose qu'on doit reconnaître chez la victime, c'est justement qu'elle a besoin d'être reconnue comme être humain, parce qu'elle vit un moment de détresse interne extrêmement pénible. Alors, ne serait-ce que de reconnaître la personne, n'étant pas un numéro, mais un être humain, alors c'est ça que la Fondation va pouvoir offrir.
Pour en connaître davantage sur la Fondation, visitez victoiresurlhomophobie.com.
Pour lire le billet « L'amour n'a pas de sexe », allez sur le blog Feather and Birds. C'était une entrevue de Marie-Claude Tardy. La sensibilité électromagnétique est une maladie dans laquelle une personne déclare souffrir de symptômes causés et aggravés par des champs ou des ondes électromagnétiques. André Fauteux, éditeur du magazine La Maison du 21e siècle, s'intéresse au phénomène depuis plus de 25 années.
Chaque fois qu'on parle de ça, on dirait que les mêmes gens sont cités pour dire que c'est dans la tête des gens. C'était très rare à l'époque, mais avec l'arrivée du tuto sans fil, de plus en plus de gens qui étaient en forme ou qui croyaient l'être développe des hypersensibilités aux produits chimiques et surtout aux champs électromagnétiques. En fait, depuis les années 50, on sait qu'il y a des effets non thermiques des micro-ondes sur l'ADN, sur le transport du calcium, sur la mélatonine qui nous protège du cancer, etc. Mais le lobby industriel étant tellement fort, à chaque fois qu'une étude sort, on tire à boulet rouge dessus pour la discréditer. Alors, l'hypersensibilité chimique et électromagnétique, ce sont toute une vaste gamme de symptômes qui vont toucher plusieurs organes, donc principalement système neurologique, notre corps est électrique, hein, cardiaque, notre cœur est électrique surtout, la peau qui chauffe aussi, par exemple, à distance, il y a des gens qui sentent les micro-ondes jusqu'à un kilomètre de distance. On peut avoir des troubles digestifs, mais dans les symptômes neurologiques, les symptômes les plus fréquents, là, c'est des choses comme des maux de tête, de l'insomnie, même la dépression, toutes sortes de symptômes donc neurologiques, l'acouphène aussi très fréquemment. Il y en a deux types, il y en a de basse fréquence et de haute fréquence. Les basses fréquences, c'est l'électricité dans nos maisons, c'est l'électricité qu'Hydro-Québec nous livre chez nous, mais qui peut aussi être parasitée par des hautes fréquences. L'électricité d'Hydro, c'est du 60 Hz, donc change de polarité 60 fois par seconde. Ce qui est encore plus nocif, c'est les hautes fréquences, comme les radiofréquences, dont les micro-ondes, qui sont dans les mégahertz et les gigahertz principalement. Et donc ça, c'est tous les appareils sans fil, donc les antennes, les radars, le Wi-Fi, les routeurs, les téléphones sans fil, les téléphones cellulaires, etc. En fait, la plainte numéro un, c'est les antennes. Et les chercheurs sceptiques, là, payés par l'industrie, disent « Ah ben non, le plus dangereux, c'est le cellulaire. Il émet beaucoup plus. » C'est vrai, et d'ailleurs, les fabricants de cellulaires disent qu'on ne devrait jamais mettre un cellulaire contre le corps. Il faut garder au moins un demi-pouce si vous cherchez dans le fine print là, de votre cellulaire. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les antennes, les compteurs intelligents, le Wi-Fi, même si la dose, elle est... moins importante que celle d'un cellulaire, l'exposition est souvent constante. Et c'est là que le bas blesse. Et puis, dans nos villes, il y a tellement d'antennes. Et oui, le Wi-Fi du voisin peut vous faire réagir, justement. Le nombre, la proportion d'hypersensibles ne cesse d'augmenter avec les compteurs intelligents. Mais le premier traitement, et c'est la même chose pour l'hypersensibilité chimique, c'est la même chose pour l'allergie aux peanuts, c'est de retirer l'élément déclencheur. Et ce qui arrive, c'est que les gens disent « Non, c'est pas dangereux, j'ai pas de symptômes. » Sauf que ton système travaille plus fort. T'as pas de symptômes jusqu'au jour où tu crashes. J'ai un petit appareil qui vaut 150$, qui est vendu sur le web. Je pense que ça vaudrait la peine de parler de 3E, c'est le site web em3e.com, compagnie québécoise là, qui fait des mesures. Et l'appareil est fabriqué par Cornet. C'est un petit electrosmog meter qui va mesurer les basses et les hautes fréquences. La couleur, on peut voir dans le vert que c'est sécuritaire. Dans le jaune, on ne veut pas être exposé à ça la journée longue. Puis dans le rouge, on ne veut jamais être exposé à ça. La première chose à faire, c'est de débrancher tout ce qui est sans fil dans votre maison le soir et la nuit. Parce que la mélatonine, je vous en parlais tantôt, c'est une hormone qui est produite par la glande pinéale. C'est ce qui règle le cycle veille-sommeil. C'est l'horloge biologique. Mais en plus, c'est une des substances les plus puissantes que le corps produit pour lutter contre les tumeurs. Et tout le monde produit des cellules cancéreuses à tous les jours. Sauf qu'un corps en santé combat bien. Quand c'est en mode avion, ça n'aimait pas. Un téléphone sans fil, même si vous ne parlez pas sur sa base, la base est mise partout dans la maison, c'est pas bon. Donc, on va réduire. L'autre chose, je vous disais, on ne met pas les appareils sans fil contre la peau. Les fabricants le déconseillent parce qu'ils savent très bien que c'est dangereux. On le sait depuis les années 50. Et même chose avec l'iPad, on ne va pas se le mettre direct sur les cuisses. On va éloigner les appareils parce que là, on voit des problèmes avec les organes reproducteurs chez l'homme, la motilité, la qualité des spermatozoïdes. Et puis le jour, le plus possible, on va se tenir entre 1 à 3 pieds des appareils autant que possible. Il y a des câbles blindés aussi qui se vendent. On va réduire le temps, évidemment, d'usage des appareils sans fil. On va utiliser les appareils filés. Chez les enfants, il y a de plus en plus de pays qui disent qu'on devrait réduire l'exposition des enfants. Le Wi-Fi a été interdit dans les garderies et les crèches en France. Et ils ont passé un cheveu de l'interdire dans les écoles primaires. Donc, si on est malade, c'est problématique, il faut soit déménager carrément ou blinder sa maison. C'est là que c'est plus compliqué, évidemment. Il faut éloigner les chambres à coucher de l'entrée électrique, les lits là, au moins à 6 pieds minimum du panneau électrique. Donc, une inspection électromagnétique est essentielle parce que souvent, la majorité des champs magnétiques de basse fréquence sont causés par le câblage domestique qui est mal mis à la terre. Il y a des gens, tant en rénovation qu'en construction, vont mettre, par exemple, des pare-vapeurs aluminisés parce que les micro-ondes ne vont pas traverser ça. C'est comme un miroir. Et donc, on va mettre ça dans les murs et plafonds. Et si on ne peut pas le faire, on va mettre une peinture au graphite qui a le même effet. Les vitres, on peut avoir les fenêtres modernes avec des pellicules low-E, faible humidité. Là, ça, c'est de l'aluminium ou c'est de l'argent plutôt. Ça va réfléchir aussi en partie. Certains plus que d'autres. Sinon, on peut mettre des rideaux. Il y a toutes sortes de tissus qui sont vendus par 3E aussi, avec lesquels on peut faire des rideaux. Puis c'est quand même... ça n'a pas le look de navette spatiale. On me dit que j'en fais une obsession. Non, je voudrais en parler moins souvent. J'écris depuis 25 ans sur les maisons saines écologiques, mais en ce moment, c'est vraiment une grave menace pour la santé publique. C'est pas moi qui le dis, c'est des experts internationaux indépendants. Donc, c'est vraiment important que les gens prennent conscience et puis, oui, lisent là-dessus, mais mesurent chez eux, justement, pour voir les nouveaux expositions.
Pour Aube, c'était une entrevue de Philippe Laramé.
Avançant vers la lumière pas à pas, des phrases se liant entre elles pour devenir des pensées. Bien vite, nos esprits furent submergés par un tourbillon inconnu qui nous prit le cœur.
Savez-vous en quoi les hommes peuvent croire? Sans doute en de nombreuses infamies. Des décors qu'ils jettent, ils soudoient le réel et forment alors devant leurs yeux l'image déployée infinie de leur déchéance. Les hommes croient le plus souvent en ce qu'ils ne peuvent pas voir, en ce qu'ils ne peuvent pas être, et donne ainsi au corps des immensités d'éons et d'éons de surfaces inconnues, plongées dans des abîmes. Ils forcent le destin à y croire aussi, et là, dans leur souffle tari par les flots de croyances, assurés du bien fondé de leurs actes, ils déchirent en ignorant leurs valeurs les cœurs de leurs semblables, pour des royaumes en sucre, portés par des chimères.
Voulez-vous vraiment approcher? Oui, il le faut. C'est étrange, les murs rayonnent.
Dans les formes hachées d'un monde qui le dépasse, l'homme tourne autour de lui-même en une spirale. Il se replie sur lui-même, griffe les parois de son être et implémente au fur et à mesure que ses certitudes se fondent, les barrières que sa croyance pense dépasser.
Je pense que nous arrivons à notre but. La lumière s'intensifie. Cela doit être le soleil. Depuis combien de temps nous marchons?
Dans son temps. Suspendu et pourtant répandu dans le monde, l'homme adresse l'espoir dans ses actes. À quoi? À lui-même peut-être, dans les arches perdues dans le ciel qui contemple son royaume sans sourciller, dans les actes millénaires, étendus comme des pattes. Comment peut-il vivre, alors que sa mort lui est assurée? Comment peut-il espérer donner, alors que tout lui sera repris à la fin de sa vie? Aimer lui sera retiré jusque sur ses lèvres sèches, les caresses parties de ses os, et la vibration splendide des baisers soutirés aux cordes de son être.
Vous voyez le vide? Moi, je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Je ne vois rien, Cassier, la lumière m'aveugle.
Un vide sombre l'habite. Il s'habite lui-même et y construit un salon de miroir. Chaque regard se reflète vers son iris pour lui donner le sens de la vie. Dans les sourires entrecroisés par les prismes de ses visages, il donne à la lumière des fils nouveaux, des palettes de couleurs harmonieusement enchantées dans les airs. Il n'y a plus de temps. Ici, au-delà du sable infini dont les grains s'étirent vers l'horizon, son œil s'éclaire. Une fois que le sens a disparu, il reste autre chose.
Il y a pourtant bien un vide, j'en suis sûr! Nous ne tomberons pas, rassurez-vous! Pourquoi? Je sens le sol sous moi!
Le sens disparu, les croyances s'évaporent, et l'esprit clair se confronte à lui-même. Sans les poussières, les crayonnés sourds de la mémoire, l'apostrophe de sa vie prend un tout autre sens. Il est succinct et dans cette éclipse humaine, il donne au monde par ses actes une couleur toujours multiple, qui au loin deviendra un tonnerre immortel. Ô clairon, tu sonneras toujours pour déchirer les hommes, tu ourdiras dans les destins de funestes horreurs, attraperas les marches pour en faire des malheurs. Mais à jamais nous taperons sur le fil d'un rasoir que nous-mêmes nous sommes. Nous couperons à la clarté de nos cils les horizons invaincus. En un soupir, extase, lumière, nous monterons sur ces échafauds. Et quand dans un râle, l'agonie terrible nous aura envolés, nous crierons un seul mot appuyé par nos lèvres, liberté. Car à jamais nous sommes libres, torturés en nos erreurs, élevés en nos grandeurs, nous sommes imparfaits, et de cette terre sale nous ferons des jardins.
Vous ne doutez plus, maître? Tout est à nouveau, je disparais, mon sang se venge, je n'entends rien.
Et les senteurs de lys riront de nos racines.
Maître! Maître! Maître? Je doute toujours, mon cher ami, n'aie crainte. Seulement, la lumière me fait un bien fou. Que s'est-il passé? Le vent est parti aussi vite qu'il est venu. Je dirais que nous venons de passer sur un filon de pensée. Qu'est-ce que cela veut dire? Rien, mis à part que nous avons eu le droit à un très beau spectacle. Il est peu courant que les pensées prennent la forme des sons. Et où allons-nous? Sans doute vers cette grande salle là-bas, avec un tableau au milieu.
Nous partîmes donc, tout frissonnant encore de ces voix ancestrales, vers un panorama qui, à défaut d'être original, n'avait pas sa place dans une grotte. Vous me direz peut-être que pour autant voyager, j'aime bien marcher. Et je répondrai que vous n'avez pas tort, mais ce qui me plaît le plus dans de telles aventures, c'est de n'en voir jamais la fin. Écrit, réalisé et enregistré par Jean-Baptiste Gardarin, avec les voix de Jean-Baptiste Gardarin, la famille Gardarin, mais aussi Philippe Laramé. Un grand remerciement à Philippe Laramé pour son soutien.
C'est ce qui conclut l'épisode 49 de Aube. Toutes nos émissions vous sont offertes en balado et peuvent être téléchargées via laplumedefeu.com. Si vous sentez inspiré par Aube, nous vous invitons à participer à notre émission car chaque épisode est le fruit des collaborateurs du moment. Vous avez 2 minutes pour nous offrir vos commentaires et nous ferait grand plaisir de vous lire sur laplumedefeu.com, sur Facebook ou via Twitter. Dans cette émission, vous avez entendu les œuvres de Philippe Laramé, de Marie-Claude Tardy, Annie Schneider, Jean-Baptiste Gardarin, Marie-Claude Journeau et Justine Rastello. À la réalisation, au montage et à la mise en onde, Philippe Laramé.
C'est un pays, fallait que je t'en parle, car je l'ai dans le cœur, comme tu crois pas. Quand je suis pas dedans, c'est pas normal à croire que le monde n'existe pas. C'est pas fait pour les cons qui râlent.